La grenouille cherche ex, une thématique imaginée en collaboration avec le journal Le Ravi.
Quand pour moi tu t'es vêtu, tout mon latin se perdit.
Avant-dernière émission autour de la place des cultures à Aix, ville d'eau, ville d'art et peut-être aussi ville littéraire. C'est ce que nous allons voir au travers de cette rencontre avec trois Aixois très directement impliqués dans la diffusion du livre. Gilles Eboli, tout d'abord, directeur de la Cité du Livre. Jean Arbeil, ensuite, qui dirige Edisud, maison d'édition installée à Aix-en-Provence. Et enfin, Martine Graillon, qui anime la librairie Paradoxe. Gilles Eboli, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez à Aix-en-Provence la Cité du Livre, une médiathèque municipale et héritière de la bibliothèque Méjeanne. À l'origine, cette bibliothèque Méjeanne, c'est une collection privée, ancienne, un fonds de livres anciens. Comment est-ce qu'aujourd'hui ce fonds de livres anciens, ce fonds patrimonial est mis en valeur et comment est-il mis à disposition des usagers et éventuellement des chercheurs?
Oui, alors précisons pour commencer que c'est toujours la bibliothèque Méjeanne hein, et que c'est effectivement à l'origine un don fait par le marquis de Méjeanne, mais pas de livres anciens. À l'époque c'était une bibliothèque très vivante. Au cours des années et des siècles, hein, puisqu'elle a plus de 200 ans, c'est devenu effectivement une collection patrimoniale, une des plus riches en région, en France aujourd'hui. Cette collection, qui à la base représente 80 000 volumes et près de 300 000 unités bibliographiques, est mise en valeur par un service du patrimoine hein, spécifique qui contient 8 personnes environ, qui accueillent les chercheurs dans une salle spécialisée, la salle Péresque, qui a conservé d'ailleurs son mobilier du 19e siècle. Donc accueille des chercheurs tous les jours de la semaine, aux heures d'ouverture, et puis mise en valeur à travers des expositions notamment, mais pas seulement, on y reviendra sans doute dans un instant quand on parlera de numérisation.
Un patrimoine livresque, mais aussi une attention à la modernité, une médiathèque très moderne, installée aujourd'hui dans l'ancienne manufacture des allumettes. Peut-être quelques chiffres pour détailler ce que représente cette Cité du Livre à Aix-en-Provence. Le fonds, il est composé d'à peu près combien d'ouvrages ?
Alors actuellement, nous recensons 660 000 unités bibliographiques, donc c'est un fonds effectivement important, pour partie patrimoniale, pour partie totalement contemporaine. La Cité du Livre, donc, c'est un ancien site industriel d'environ 14 000 mètres carrés, au cœur du projet Sextus Mirabeau, hein, puisqu'il voisine d'ores et déjà avec le pavillon noir du Ballet Brèche-Locage et dans un an avec la salle de spectacle. Alors quelques chiffres au-delà de la collection, la Cité du Livre et la Bibliothèque Méjeanne, c'est environ 900 000 à 1 million de passages chaque année hein, en termes de fréquentation. C'est environ 50 000 lectrices et lecteurs inscrits, dont la moitié actifs chaque année. C'est 600 rendez-vous, 500 à 600 rendez-vous sur l'année dans nos lieux de rencontres et d'échanges. Je pense à l'amphithéâtre de la Verrière, à la salle Armand-Lunel ou à l'auditorium.
Les activités autour du livre, maintenant, si vous le voulez bien. Il est bien entendu important de mettre à disposition des ouvrages, mais il est aussi important de participer à ce que ces ouvrages soient perceptibles par le public, à développer autour du livre un certain nombre d'animations, un certain nombre de rencontres. Est-ce que vous proposez ce type d'activité ?
Oui, c'est même la caractéristique de la Cité du Livre. Hein. Elle se démarque d'autres établissements du même type par le fait que, autour de la biothèque Méjeanne, hein, qui est son cœur et son pivot, on développe un ensemble de relations avec des partenaires pour la mise en œuvre d'une action culturelle qui est une des plus importantes en France, puisque donc l'établissement dispose autour toujours de cette collection, hein, qui reste quand même le cœur et l'âme de l'activité, dispose d'espaces de mise en avant, de valorisation des écritures, on dira, hein, pour être suffisamment large. Donc, je parlais de l'amphithéâtre de la Verrière, c'est un amphithéâtre qui peut accueillir de 350 à 600 personnes. Nous avons des rendez-vous qui sont moins importants, mais tout aussi intéressants et en tout cas soutenus tout au long de l'année. Hein. Alors, ces partenariats sont avec des acteurs de la vie littéraire, mais aussi dans le domaine du cinéma, de la poésie. Et c'est avec eux que nous parvenons à offrir, je vous le disais tout à l'heure, plus de 500 rendez-vous dans l'année. Alors, certains sont des micro-rendez-vous, hein, si on veut, effectivement, pour une rencontre de dimension modeste. Mais il y a aussi, par exemple, la fête du livre qui arrive à accueillir 10 000 à 15 000 personnes sur 3 à 4 jours.
Vous venez récemment, je crois, justement, d'accueillir le prix Nobel de littérature Kenzaburo Oe dans ce cadre que vous citiez, de la fête du livre. Vous êtes satisfait, justement, de cette rencontre avec le public ?
Oui, évidemment, extrêmement satisfait d'une part par l'ampleur, hein, de l'audience. C'est vrai que c'est un pari au départ que mène donc Annie Terrier, puisque c'est Annie Terrier qui dirige les Écritures Croisées, qui sont notre partenaire pour la fête du livre. Ce pari, c'est celui de l'exigence, hein, faire venir à Aix-en-Provence un auteur pas toujours grand public, entre guillemets, une exigence d'écriture avec une très très large audience, c'est un pari et qui réussit depuis plusieurs années. Il suffit de citer quelques noms, Toni Morrison, Russell Banks, Antonio Tabucchi et j'en passe. C'est un rendez-vous qui est très suivi et c'est vrai que pour le directeur d'établissement que je suis, c'est une grande satisfaction de voir que ce pari rencontre une large adhésion auprès d'un public très, très divers, hein. Étudiants, jeunes, moins jeunes, c'est une réussite.
Des actions donc en direction des lecteurs, de ceux qui connaissent la littérature et qui l'apprécient. Peut-être aussi des actions en direction de ceux qui sont en train de l'apprendre, je pense particulièrement aux scolaires. Est-ce que vous menez des ateliers ou est-ce que vous accueillez volontiers des classes de scolaires, de lycéens ou bien d'étudiants, et que c'est une ville universitaire particulièrement importante?
Alors je m'attarderai plus sur les scolaires, enfin les primaires et les collégiens ou lycéens que sur les étudiants. C'est vrai que l'offre pour les étudiants sur Aix comme sur Marseille est extrêmement développée. Je préférerais me concentrer donc sur les plus jeunes. C'est une activité régulière, hein, des bibliothèques que d'accueillir les classes pour leur faire découvrir le livre. Et nous menons bien évidemment dans ce cadre de très très nombreuses actions qui sont concentrées, symbolisées autour du plan lecture que nous menons à la suite d'une convention avec le rectorat. Donc là, il y a une cinquantaine de classes qui travaillent sur un thème. Depuis 2 ans, nous travaillons sur le thème du fantastique. Et c'est une action qui, si vous voulez, symbolise l'activité que nous avons en destination des plus jeunes.
Des actions en direction des lecteurs, des actions en direction des scolaires. Est-ce que vous menez aussi des actions en direction de populations qui, elles, sont plutôt en difficulté à l'égard de la lecture ?
Ben, effectivement, nous essayons aussi d'avoir cette activité-là. Bon, un exemple, c'est la convention que nous avons passée il y a maintenant près de 8 ans avec la maison d'arrêt de Luynes pour aider la maison d'arrêt de Luynes à faire vivre dans ses murs, évidemment, une bibliothèque. Donc la bibliothèque intervient, dépose des collections, forme des bibliothécaires, des détenus bibliothécaires. Nous avons, il y a quelques années, eu, et puis nous poursuivons, des relations avec l'hôpital, hein, pour les jeunes enfants hospitalisés, mais aussi les personnes plus âgées qui sont hospitalisées. Nous travaillons avec les maisons de retraite, hein, très récemment. Nous avons monté un atelier pour personnes âgées avec une plasticienne, d'un atelier qui s'appelle le Petit Jaunet, Nancy Sulmont. Enfin, nous essayons évidemment de multiplier ces actions à destination de publics dits défavorisés ou empêchés. De même, l'action en quartier, hein, menée avec les intervenants sociaux, les éducateurs, dans le quartier du Jas de Bouffan, à partir de notre annexe des Deux Ormes.
Comment procédez-vous du coup avec une population qui n'est pas du tout capable de lire? Là, vous mettez des livres à disposition de gens qui sont malgré tout capables de les apprécier. En revanche, l'illettrisme, il faut bien le réaliser, qu'on représente une part non négligeable de la population. Comment faire accéder aux livres des gens qui ne savent pas lire?
Oui, alors effectivement, et vous avez bien raison de le souligner, de le rappeler, l'illettrisme est un problème qui existe, hein, extrêmement complexe. Mais c'est vrai que dans ce domaine du social, comme dans d'autres domaines, les bibliothécaires, à un moment, doivent travailler en partenariat, hein. On ne peut pas à la fois acheter des livres, les prêter, apprendre à ceux qui ne savent pas lire à lire. Donc évidemment, à un moment, on passe le relais à des métiers plus compétents. C'est vrai qu'il y a des réseaux, des structures en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Marseille, à Aix, qui luttent contre l'illettrisme. Très naturellement, nous travaillons avec eux et nous accueillerons en janvier, la date m'échappe maintenant, mais une journée d'études sur l'illettrisme à la Cité du Livre.
Une cité du livre patrimoniale, une cité du livre médiathèque de près, très moderne, mais aussi, j'imagine, dans la perspective d'une évolution future. On voit aujourd'hui arriver les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comment est-ce que la cité du livre se prépare à ces mutations qui sont à venir, mais dont on sent très bien qu'elles se dessinent déjà dès aujourd'hui?
Oui, et le dessin est de plus en plus net et affirmé, hein. Alors c'est vrai que dans ce domaine, la Cité du Livre et la Bibliothèque Méjean avaient pris quelques retards parce que notre dispositif informatique datait de 1991, donc c'était pas possible de se développer à partir de là. C'est pourquoi la ville a décidé d'un grand chantier de réinformatisation qui va aboutir là très prochainement, début février, puisqu'on va mettre en œuvre un nouveau système qui permettra à notre bibliothèque d'offrir aux usagers à la fois des services matériels, des livres et des collections sur papier, mais aussi des services et des collections immatérielles, hein. Donc je pense évidemment à un site et à un portail documentaire, mais aussi des documents numériques auxquels les usagers pourront avoir accès sans se déplacer. Donc, on aura à partir de février prochain une double bibliothèque. Hein, on parle de bibliothèque hybride, une bibliothèque physique à la Cité du Livre, à la Méjeanne, mais aussi une bibliothèque à distance à travers Internet.
Est-ce que vous avez les moyens de cette mutation? J'imagine que vos moyens ne vous permettent pas forcément seuls d'opérer cette révolution. Alors, êtes-vous aidé pour cela et par qui?
C'est essentiellement la ville d'Aix, hein, qui nous offre les moyens d'une ambition nouvelle, mais d'autres acteurs interviennent, et notamment pour notre nouveau système d'information, l'État, hein, à travers la Direction régionale des affaires culturelles, mais aussi la région, mais aussi la communauté du pays d'Aix, sont intervenus pour que notre offre puisse franchir une nouvelle étape.
Parlons, si vous voulez bien, du rayonnement de la Cité du Livre. Vos lecteurs sont, j'imagine, essentiellement aixois, mais pas seulement. Vous parliez à l'instant de la communauté du Pays d'Aix. Est-ce que vous êtes capable de donner une proportion à peu près de la provenance de vos lecteurs? Combien habitent la ville d'Aix-en-Provence et combien viennent de l'extérieur?
Alors là, je crois qu'il faut distinguer, suivant les activités, l'activité proprement patrimoniale est telle une activité internationale, hein, bien évidemment. En revanche, pour l'activité de lecture publique, le rayonnement, on a quelques chiffres, effectivement. Il y a 30% d'usagers qui viennent de la communauté du Pays d'Aix, en dehors d'Aix. C'est donc un service déjà très important que la ville-centre rend sur la communauté du pays d'Aix.
Et du coup, le financement de votre établissement correspond ? Il y a à peu près la même proportion de financement qui vient de cette communauté du pays d'Aix et le reste du financement vient de la ville proprement dite ?
Le financement ordinaire, ce qu'on appelle le fonctionnement, est, si vous voulez, à 96% à la charge de la ville d'Aix-en-Provence, le reste venant de l'État. En revanche, l'intervention de la communauté du pays d'Aix, comme demain, l'intervention de l'État, se traduit plutôt par des interventions en matière d'investissement. Achat donc de nouveaux systèmes d'information ou intervention dans le futur pour construire de nouvelles réserves.
Comment est-ce que vous percevez, vous, cette dualité, cette nuance parfois importante entre la ville d'Aix-en-Provence et la communauté du pays d'Aix, deux communautés qui ne mènent pas forcément exactement la même politique culturelle ?
Écoutez, très franchement, à la bibliothèque Méjeanne et la Cité du Livre, on ne ressent pas particulièrement cette dualité. Je crois que les choses se font de façon très complémentaire. Très franchement, là, je ne vois pas d'accident ou de problème. En revanche, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, en termes de développement de la lecture publique sur l'ensemble de la communauté, on en est encore au démarrage. On a vu la communauté intervenir pour notre informatisation. On sait que la communauté suit aussi un projet de médiathèque à Pertuis. C'est prometteur pour l'avenir, de constitution d'un véritable réseau, travaillant en cohérence et en synergie. Pour l'instant, ce réseau n'existe pas encore. C'est un travail qui reste à venir.
Aix et la communauté d'Aix, mais aussi une autre dualité, une rivalité entre Aix et Marseille, bien sûr. Comment est-ce que vous percevez cette rivalité ?
Là encore, au quotidien, c'est moins aigu que ce que vous semblez laisser supposer. Nous travaillons avec la bibliothèque municipale à vocation régionale de l'Alcazar, bon, pas au quotidien, et effectivement, si ce n'est dans un va-et-vient que pourraient faire certains usagers, ils ne manquent pas de le faire. Mais nous travaillons ensemble, notamment dans le cadre du pôle associé à la Bibliothèque nationale de France sur le thème de la Méditerranée. Depuis plusieurs années, existe une association qui rassemble Marseille, la BM de Marseille et la BM d'Aix, mais aussi la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, mais aussi les archives d'outre-mer ou la Chambre de commerce et d'industrie. Et dans ce cadre-là, sur une action qui est proprement identitaire, c'est-à-dire les collections relatives à la Méditerranée, nous travaillons ensemble, nous répartissons la tâche en harmonie avec des, non pas des directives, mais des indications données par la Bibliothèque nationale de France.
Au-delà de cette instance nationale qui concerne donc spécifiquement le bassin méditerranéen, est-ce que vous avez au plan régional une instance qui permet de réunir les représentants des différentes grandes médiathèques ? Vous avez cité la BMVR Alcazar, je pense aussi à la médiathèque de Miramas qui est assez ancienne. Est-ce que vous vous retrouvez régulièrement pour mener des actions concertées ?
Alors, se retrouver régulièrement pour mener des actions concertées, c'est peut-être un petit peu fort comme formulation. Il y a des axes de travail ou des lieux où on se retrouve. Tout d'abord, autour de la bibliothèque municipale à vocation régionale, autour de la BMVR, il y a une action conjointe avec toutes les bibliothèques de la région sur le livre de jeunesse. Il y a un plan de conservation et d'élimination donc partagé qui est extrêmement important, bien évidemment. Autour d'associations comme l'Association des bibliothécaires français, il y a des journées d'études qui nous réunissent très très régulièrement. Il y a un groupe régional pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est extrêmement actif. Et enfin, il y a l'Agence régionale du livre. L'Agence régionale du livre qui a deux instances tutélaires qui sont la région, le conseil régional et la direction régionale des affaires culturelles. Donc cette agence travaille à faire que les éditeurs, les libraires et les bibliothécaires de la région travaillent ensemble. Aujourd'hui même, à Nice, il y a donc une réunion organisée par l'agence à destination de ces trois professions sur le thème de l'achat public dans le domaine du livre, ce qui est effectivement un enjeu important.
Parlons justement, si vous le voulez bien, de l'édition, mais aussi des auteurs, sans qui le livre aurait bien de la peine à être lu. Est-ce que vous entretenez des liens privilégiés avec des auteurs, des créateurs, des éditeurs en région, des auteurs bien entendu contemporains ?
Alors, je crois que la Cité du Livre, c'est la maison des auteurs à la base, puisque notre pari est de faire vivre deux des axes principaux des actions culturelles des collectivités, qui sont d'une part la création, d'autre part la diffusion. Et le projet de la Cité du Livre, c'est bien ça, hein, marier ces deux actions. Alors, la diffusion, c'est la bibliothèque qui la réalise, hein, évidemment, avec son activité de consultation et de prêt de collection. La création, ce sont nos partenaires, hein, qui les amènent et qui les présentent, qui les offrent au plus vaste public à travers ces structures de débat, de dialogue, d'accueil, de manifestation que sont l'amphithéâtre de la Verrière ou la salle Armand Lunel ou l'auditorium. Alors bien évidemment, des auteurs, nous en recevons beaucoup, hein, c'est comme je vous le disais, leur maison, des éditeurs aussi, à travers le partenariat avec les Écritures Croisées, hein, qui concerne la fête du livre, mais pas seulement. Hein, nous accueillons là, mi-novembre, les Belles Étrangères, hein, cette action menée par le Centre National du Livre. Cette année, c'est consacré à la Nouvelle-Zélande. Nous recevrons en décembre à nouveau un auteur comme Mahmoud Darwish, hein, qui est un poète comme Mahmoud Darwish. Adonis va venir aussi, puisque nous avons la Fondation Saint-Jean-Perse dans nos locaux. Donc, évidemment, une action autour de la poésie importante. Concernant les auteurs régionaux, entre guillemets, hein, je préfère vivant dans notre région, alors là c'est l'Agence régionale du livre qui mène une action autour de ce projet de maison des auteurs, qui ne vise pas à bâtir un bâtiment de plus, hein, mais à faire en sorte que les auteurs vivant dans notre région puissent faire connaître ben, parfois simplement leur existence, mais aussi mettre en avant leurs travaux, à travers ce réseau qui est en train de s'élaborer de libraires, d'éditeurs et de bibliothèques en région PACA.
Donc vous accueillez les stars du livre, Toni Morrison, Antonio Tabucchi, Kenzaburo Oe, mais vous laissez éventuellement à cette agence du livre le soin de vous présenter les auteurs vivant en région et qui sont en pointe de la création. Vous n'avez pas la volonté d'être un peu plus justement en avant, enfin d'aller à leur rencontre peut-être un peu plus?
Ah, je n'ai pas dit que la Cité du Livre, c'était les stars et puis l'agence dans les contrées éloignées, les petits auteurs. Non, non, ce n'est évidemment pas notre politique. Les auteurs en région ont eux aussi leur... la Cité du Livre est aussi leur maison, mais il ne faut pas non plus que toute l'activité se déroule à la Cité du Livre. Hein. C'est pourquoi l'agence, bien évidemment, travaille plus les autres collectivités, c'est sa mission. Hein. La ville d'Aix n'a pas à s'occuper de l'action littéraire à Vence, par exemple, ou à Fréjus. En revanche, bien évidemment, nous accueillons et nous accueillerons les propositions d'acteurs régionaux voulant et d'auteurs régionaux voulant se produire, c'est beaucoup dire, mais être présent à la Cité du Livre d'Aix.
Comment est-ce que cette Cité du Livre s'inscrit dans une perception des autres formes d'expression artistique? Je pense à certaines qui sont à Aix très célèbres, le Festival d'art lyrique. Je pense à d'autres festivals, peut-être en direction de formes plus actuelles de la création, avec Arborescence. Je pense aussi, bien entendu, à votre nouveau voisin, qui est le Pavillon Noir de Presles-Locage. Comment est-ce que vous êtes en relation avec la danse, le théâtre, la musique, que d'autres formes d'art et d'expression?
Écoutez, c'est une relation qui est constante, hein, par la force des choses. On ne peut pas ne pas être à un moment ou à un autre concerné à Aix-en-Provence par l'art lyrique ou aujourd'hui la chorégraphie. Donc il faut savoir que nous avons au sein de la Cité du Livre une vidéothèque d'art lyrique et de danse, hein, qui rassemble des productions lyriques ou chorégraphiques, et notamment le fond des productions d'Angelin Presles-Locage. La compagnie Presles-Locage est arrivée à la Cité du Livre en 1996. C'était à la base une sorte d'hébergement de secours, hein, à la suite de ce qui s'était passé à Château-Vallon. C'est devenu ensuite un partenariat, notamment basé sur cette collection, hein, mise en valeur à travers notre vidéothèque, mais des actions communes qui sont vraiment quotidiennes. Hein, là, pour l'inauguration du Pavillon Noir, la Cité du Livre et le Pavillon ont travaillé ensemble, bien évidemment, et ce partenariat se poursuivra, c'est évident. Pour le Festival d'art lyrique, nous accueillons depuis plusieurs années l'Académie européenne de musique. Hein, Pierre Boulez a donné plusieurs concerts dans notre amphithéâtre de la Verrière. C'est là encore un partenariat naturel qui prendra sans doute de nouvelles formes avec ce nouvel acteur qui va entrer en jeu à Aix, qui est vraiment privilégié de ce point de vue, dans un an avec la salle de spectacle, hein, que Grégotti est en train de construire, là encore à quelques pas, à une cinquantaine de mètres.
Le pavillon noir, la cité du livre, cette nouvelle construction que vous évoquez, ça semble indiquer que l'avenir va peut-être vers une plus grande concentration de l'offre culturelle. Est-ce que c'est comme ça que vous le percevez?
Non, parce qu'alors là, il y aurait véritablement un risque hein, à mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est vrai que ces institutions phares, à un moment, peuvent effrayer, parce qu'évidemment, elles sont consommatrices de budget qui n'iraient pas à d'autres structures plus légères, plus travaillant mieux le département ou la région. C'est vrai qu'on ne peut pas éviter d'avoir des pivots pour enrichir, relayer des actions, mais après il revient, je crois, aux collectivités, hein, chacune dans leur domaine, et je crois qu'elles s'efforcent de le faire au mieux, d'irriguer un territoire et de ne pas constituer un pôle privilégié qui absorberait tout et délaisser, là il y a des enjeux d'aménagement culturel du territoire, que les élus, à mon avis, de la région, comme du département ou de la communauté du Pays d'Aix, doivent relever et relèvent.
Quelles seront donc vos priorités pour ces prochaines années?
Alors écoutez, en termes d'action culturelle, si vous voulez, il y a cette naissance d'un pôle culturel absolument exceptionnel entre la salle de spectacle, hein, le Grand Théâtre de Provence, le Pavillon Noir et la Cité du Livre. Il faudra voir entre ces trois institutions et d'autres, hein, puisqu'il y a d'autres acteurs à Aix et à Marseille, comment les programmations se complètent, cèdent, s'enrichissent, hein, plutôt qu'elles ne se concurrencent. Ça, c'est un premier élément et c'est un enjeu très stimulant. Concernant la bibliothèque Méjane au sein de la Cité du Livre, l'enjeu c'est effectivement ce qu'on disait en début d'entretien, c'est ce pari de la révolution numérique. Comment les bibliothèques vont réussir à relever ce pari-là? Les bibliothèques ont déjà réussi à se transformer en médiathèques, c'est-à-dire que elles ont déplacé petit à petit leur activité, alors des fonds patrimoniaux, ça a été vu dans les années 60-70, vers des activités de prêt pour la lecture publique. Aujourd'hui, la demande du public se déplace. Hein. Le public ne veut plus seulement emprunter un document, mais aussi utiliser et vivre dans des espaces accueillants, conviviaux, où ils peuvent se former, s'informer de façon libre et gratuite, hein, c'est important. C'est l'enjeu principal, à mon avis, des années à venir, que de réussir ce pari d'une évolution qui ouvre sa collection et ses services vers un public nouveau, plus large, et sur des usages renouvelés.
Merci Gilles Bolli.
Merci à vous.
Suite de notre balade aixoise à propos du livre, après la médiathèque, voici l'éditeur. Un entretien avec Jean Arbeil qui représente les éditions Élisud installées à Aix-en-Provence. Un entretien réalisé sur le cours Mirabeau.
À Aix, non pas via Paris ni Paris via Aix, je suis à Aix-en-Provence tout court, puisque je suis maintenant installé depuis quelques mois avec ma famille à Aix, délibérément. Et les raisons, c'est une opportunité qui m'a conduit à venir à Aix m'occuper de l'ensemble des publications de la maison Édisud, où j'y ai vu une opportunité dans la mesure où c'est une maison qui publie à la fois des ouvrages de région et des ouvrages généraux. Donc ça m'a paru intéressant qu'un éditeur ne soit pas exclusivement, de l'importance de Dissud, ne soit pas exclusivement dédié à des ouvrages de région.
Votre catalogue est assez étendu, assez fourni, un certain nombre de collections, un certain nombre d'ouvrages publiés. Combien à peu près ?
Eh bien écoutez, quand nous sommes arrivés il y a un an et demi, puisqu'Edisud a changé d'actionnariat il y a maintenant un an et demi, il y avait 1100 références au catalogue, ce qui est absolument considérable. Nous avons fait quelques nettoyages et actuellement nous avons 800 références au catalogue, ce qui est pour un éditeur pratique, et j'intègre dans cette exception l'ensemble des éditeurs français, est énorme encore.
Parlons justement de ce catalogue, de quoi est-il composé ?
Nous couvrons à peu près une grande partie des thématiques classiques du domaine pratique. Ça va de la nature à l'archéologie, en passant, si tant est qu'on puisse considérer que l'archéologie est du domaine pratique, mais la façon dont nous traitons l'archéologie est du pratique en partie, en passant par la cuisine, le tourisme, le patrimoine bien entendu, et Dieu sait que la région se prête à cette thématique, sans oublier aussi des thématiques peut-être moins généreuse en termes de chiffre d'affaires, mais très importante pour l'image, qui sont les lettres, ce qu'on appelle les lettres, les sciences humaines également. Donc un large panel de thématiques du domaine pratique. C'est-à-dire que le domaine pratique, ce sont des ouvrages qui permettent à leur acheteur de s'instruire et le cas échéant de se cultiver.
Dans ce domaine des lettres, quels auteurs particulièrement pourriez-vous citer ?
Dans le domaine des lettres, nous avons des partenariats avec d'abord des associations, des laboratoires, plus que des auteurs, si vous voulez, nous avons des ouvrages collectifs. Et je pense par exemple au domaine des sciences humaines, qu'on peut englober dans le domaine des lettres. Les sciences humaines, nous travaillons par exemple avec un laboratoire de sciences humaines de l'université d'Aix-Marseille. Et puis nous avons d'autres partenariats avec par exemple les journées Henri Bosco, l'association des Amis de Camus, etc. Donc si vous voulez, ce sont souvent des ouvrages collectifs plus que des ouvrages d'auteurs, même si certains ouvrages, dont des moindres, comme par exemple notre dictionnaire français provençal, sont écrits par des universitaires en vue. Et en particulier, je pense à notre manuel pratique du provençal contemporain, vais-je dire, qui est écrit par M. Barthélémy Vigourou et M. Martin. Donc voilà, qui sont des universitaires aixois.
Quelles sont les raisons qui vous ont fait vous installer à Aix-en-Provence ? En fait, je crois que les éditions Edisud sont une maison un peu ancienne, qui existait déjà, et que vous représentez en fait un groupe qui vient récemment d'investir dans cette maison et de lui insuffler un esprit nouveau. Pour quelles raisons avoir choisi de reprendre ainsi une maison d'édition en province, et particulièrement à Aix-en-Provence ? Est-ce que c'est un choix économique ? Est-ce que c'est un choix esthétique ? Est-ce que c'est un choix pratique ?
Alors effectivement, vous l'avez dit, les éditions Edisud existent depuis 1972, pour être précis, fondées par M. Chaudoreille et reprises donc il y a un an et demi par un groupe industriel passionné de livres, qui par ailleurs a d'autres maisons spécialisées, non régionales. Alors pourquoi Edisud ? Bon, vous savez, il faut être honnête, il y a des opportunités qui se présentent. Je pense que c'est une rencontre entre des gens qui ont trouvé une connivence. Et je pense que entre nos actionnaires actuels, qui sont donc des industriels belges, a priori, qui n'avaient aucune raison de s'installer en Provence, et l'ancien directeur, qui est donc M. Chaudoreille, il y a eu une espèce de complicité. M. Chaudoreille a compris qu'il y aura une continuité qui sera installée, et qui se confirme aujourd'hui, puisque moi je tiens absolument à développer Edisud dans la droite ligne de son fondateur, c'est-à-dire en ménageant à la fois évidemment la connotation régionale, aixoise, provençale, méditerranéenne, et aussi en maintenant une aura nationale, en sachant très bien d'ailleurs que les ouvrages sur la Provence et les ouvrages sur la Méditerranée se vendent aussi bien à Aix qu'à Dijon ou qu'à Paris, voire d'ailleurs à l'étranger, puisque un certain nombre de nos ouvrages, pas assez, mais nous nous y employons, sont vendus à l'étranger, Et je pense en particulier aux Anglais qui sont, vous le savez, extrêmement amateurs de notre région et aux Scandinaves également.
Cela signifie que le Sud, et particulièrement le pays d'Aix, se vend toujours très bien, bénéficie d'une image très positive à l'étranger, c'est le rêve touristique.
Il y a deux régions en France qui se vendent très bien, là je sais d'expérience, et ce sont aussi les chiffres qui parlent, sont le Sud et la Bretagne. Et on sait très bien quand on fait un livre sur la région bretonne ou sur la région méditerranéenne, et de façon plus spécialisée sur la ville d'Aix, on sait très bien que l'ouvrage se vendra, je peux vous citer des chiffres, pour 50% sur les lieux concernés et pour 50% ailleurs. Et ça, il y a très peu de régions en France qui peuvent revendiquer cet équilibre.
Comment est-ce que vous percevez la ville d'Aix-en-Provence où j'imagine vous résidez, où vous vivez, où vous êtes installé, une ville aisée, une ville cultivée, une ville jeune, est-ce que cette ville n'a que des qualités, est-ce qu'elle a aussi des défauts, comment est-ce que vous la percevez?
Alors je vois beaucoup de qualités, je vois un défaut déjà, je vais commencer par ça, je trouve que c'est une ville polluée, mais ça tout le monde le sait, tout le monde, les autorités en ont conscience. Et le nombre important de voitures dans un univers restreint ne peut que générer beaucoup de pollution. Alors, sinon, tous les qualificatifs que vous avez employés, je les prends à mon compte. C'est une ville jeune, c'est une ville. Il y a un terme qui me vient à l'esprit, c'est une ville cosmopolite, surtout. Pour moi, c'est avant tout une ville cosmopolite. Avec les avantages et les inconvénients, je pense que ce n'est pas seulement pour les éditeurs, mais il y a une notion un peu de fluidité, de difficulté à appréhender le public aixois. Il y a une population aixoise qui existe, une population de souche, bien entendu, mais il y a surtout une population jeune d'étudiants et puis une population aussi de cadres qui s'installent, qui repartent. Et on sait très bien, les politiques le savent, il est difficile de gérer, j'imagine, une ville de cette qui change, dont la population se renouvelle régulièrement. Donc c'est une ville cosmopolite, sinon c'est une ville extrêmement agréable, extrêmement dynamique, où les arts sont omniprésents et on a beaucoup de difficultés à dire que c'est une ville non agréable à vivre.
Le livre, y a-t-il une place importante? Vous êtes, j'imagine, en lien avec les distributeurs et aussi avec les libraires qui sont installés dans cette ville d'Aix-en-Provence. Est-ce que le livre se vend bien dans cette ville? Est-ce que c'est au-dessus, en dessous de la moyenne nationale? Est-ce que le livre est un outil culturel qui est d'usage courant et qui est apprécié par l'ensemble de la population aixoise, selon vous?
La réponse est un peu dans votre question précédente et dans ma réponse précédente, à savoir qu'on a affaire à un public d'origine en partie exogène, donc aisé, donc lisant, cultivé. Et la réponse est oui. Je pense que, pas des chiffres précis à vous citer, parce que c'est difficile, il faudra interroger. Je pense que les libraires ont plus de chiffres de ce point de vue-là, mais je pense que Aix est une ville où la moyenne par habitant, sans doute, ou par 100 habitants, et la moyenne de lecteurs par 100 habitants, disons, est sans doute beaucoup plus importante qu'ailleurs. En raison de la nature de la population, effectivement.
Quelle relation entretenez-vous avec les structures culturelles présentes à Aix et dans le pays d'Aix? Aussi bien les structures publiques, je pense à la ville, à la mairie et à la communauté de communes, mais aussi au terrain associatif assez fortement représenté dans ce pays d'Aix.
Alors nous avons des relations à la fois avec la ville d'Aix et plus largement avec la région. La caractéristique de ces relations, c'est sa diversité. C'est-à-dire que un certain nombre de publications ont été faites avec Aix dans le passé. Actuellement, nous avons quelques projets, mais qui sont encore suffisamment diffus pour ne pas être diffusés. Quant à la région, nous avons, alors je vous parlais tout à l'heure de relations avec des laboratoires aixois, n'est-ce pas, dans le domaine des sciences humaines, et nous avons de nombreuses relations avec, outre des laboratoires, la délégation régionale à l'action culturelle, dans le domaine en particulier de l'archéologie, où nous préparons par exemple pour l'année prochaine un 100 ans de recherche en préhistoire, ou les 100 plus beaux sites préhistoriques de la région. Nous avons des relations dans un tout autre domaine avec le parc national du Luberon. Nous avons, avec le centre Camille Julian de Marseille, on n'est plus à Aix, des relations, nous publions des ouvrages très très spécialisés sur des fouilles qui ont lieu, c'est la collection des fouilles Massaliette, qui ont lieu à Marseille et dans la région. Nous venons de publier un ouvrage qui s'appelle sur Olbia, hein, dont le site est sur la ville d'Hyères actuellement. Et puis, je le disais, nous avons des relations beaucoup avec des auteurs indépendants aixois qui nous apportent, pas toujours d'ailleurs des fonds et de la monnaie sonnante et trébuchante, mais qui nous en rapportent leur fichier, leur carnet d'adresses, et ce qui est aussi très important pour nous. Quand on parle de partenariat, on pense échange financier, mais ce qui est important aussi pour nous, c'est d'avoir un laboratoire qui arrive avec son tissu relationnel, à la fois sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan commercial.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois que la richesse du patrimoine dans cette région est un peu un arbre qui cache la forêt et que justement il est tellement facile d'avoir recours à l'exploitation du patrimoine que parfois on est un peu réticent à être justement à l'écoute de la création contemporaine? Est-ce que ça n'est pas un peu une fatalité de cette région et particulièrement d'Aix-en-Provence et du Pays d'Aix?
Écoutez, l'arbre qui cache la forêt, effectivement, simplement, vous pouvez faire peut-être allusion à l'événement récent qui a marqué la ville d'Aix pendant plusieurs mois, qui est l'année Cézanne. Et je dois dire avec un certain plaisir, une certaine satisfaction, que nous sommes l'un des rares éditeurs régionaux, locaux, aixois, je pense même, à n'avoir pas publié sur Cézanne. C'est un choix délibéré de la part de l'ancienne direction d'Edisud que nous avons repris à notre compte, en toute conscience, sachant que nous considérons que notre mission n'est pas de publier des choses que tout le monde potentiellement peut publier, y compris des éditeurs nationaux. Notre mission, c'est d'aller chercher justement au travers de notre tissu, relationnel, artistique, intellectuel, culturel que nous sommes en train d'instaurer, et je parle là, je reprends à mon compte cette réflexion, m'étant moi-même installé à Aix, donc au travers de tous ces tissus, de pouvoir publier des choses un peu originales. Je faisais allusion tout à l'heure à l'archéologie, qui n'est pas une discipline facile à vulgariser. N'oublions pas que notre mission d'éditeur pratique, c'est de vulgariser pour un public cultivé, c'est un peu le positionnement des dissudes, si vous voulez, donc vulgariser pour un public cultivé des thématiques que je citais tout à l'heure, mais l'archéologie en particulier, peu d'éditeurs s'y collent, si vous me permettez l'expression. Donc voilà notre mission, si vous voulez, au-delà des clichés classiques qu'on pourrait creuser et que nous évitons de creuser.
Comment est-ce que vous imaginez la ville d'Aix-en-Provence dans 10 ans? Comment est-ce que cette ville va évoluer selon vous?
C'est une question très difficile. Je pense que c'est une ville là, qui aura de moins en moins de voitures. Je faisais allusion, vous allez me trouver obsédé par la pollution et par les voitures. Je suis d'origine, je suis écologue de formation, donc forcément je suis très sensible à la pollution. Il est difficile de répondre à votre question dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, la population est une population très... très labile, très mouvante. Je pense que une chose est sûre, c'est que le dynamisme culturel, artistique sera une constante. C'est une constante d'ailleurs depuis un siècle, depuis que j'allais dire que les Anglais se sont installés à Aix, et puis depuis que les artistes se sont installés à Aix. Je pense que la constante, ça sera que l'activité culturelle et artistique restera une constante. Maintenant, que deviendra Aix, c'est très difficile à dire.
Merci Jean Arbeil. troisième et dernière étape de notre découverte d'Aix-en-Provence au travers de la présence du livre, un détour par le quartier Mazarin où Martine Graillon tient depuis de nombreuses années déjà une librairie particulière, la librairie Paradoxe, une librairie axée sur l'international. On l'écoute.
Bonjour, voilà, pour vous expliquer un petit peu, Paradoxe est une très ancienne librairie qui a été fondée à peu près une quarantaine d'années par une américaine à Aix. Et donc, lorsqu'elle est arrivée, elle a ouvert cette librairie, disons, parce que Aix est une ville universitaire avec une très importante section d'anglais, donc beaucoup d'étudiants. Il y avait également beaucoup de personnes anglaises qui sont venues s'installer sur Aix et la région, d'où l'ouverture de cette librairie qui était justifiée à l'époque et qui était la seule sur Aix. Depuis, ça fait à peu près une quarantaine d'années, cette librairie a évolué, elle a été déplacée, elle se trouve maintenant intramuros sur la place des Quatre Dauphins, sur le passage des étudiants pour l'université. Et du fait qu'il y avait beaucoup plus de place, ça a donné l'envie de mettre les autres langues. Donc maintenant, non seulement c'est de l'anglais qu'on peut trouver chez Paradoxe, mais de l'italien, de l'espagnol, etc., de toutes sortes de langues. Langues asiatiques également, voilà.
Non seulement une dimension européenne, mais une dimension internationale.
Oui, tout à fait. De toute façon, on a fait aussi de la publicité dans pas mal de guides étrangers, ce qui fait que lorsque des touristes venus des États-Unis ou d'ailleurs arrivent chez nous, donc on connaît déjà notre librairie à l'avance et viennent nous rendre visite sur place. On disait tout à l'heure des livres sous toute langue, sauf, je rectifierai, on ne fait pas du tout de français chez Paradoxe.
Qui sont vos clients ?
Ben d'abord, en premier lieu, bien sûr, les étudiants qui sont à l'université. Ensuite, nous avons bien sûr les écoles privées, écoles du système normal. Ensuite, nous avons également des gens qui sont venus se retirer, des étrangers qui sont venus se retirer de la région. Également des gens qui ont été mutés ici pour des raisons donc de travail, qui viennent un peu partout et qui sont employés par des grandes sociétés, genre Eurocopter et autres. On a des Australiens, des Sud-Africains. Beaucoup de différentes nationalités, et ça devrait également encore se développer, puisque maintenant qu'on a le projet ITER à Aix, on risque d'avoir beaucoup, même maintenant, de Japonais en plus.
C'est un changement notable de la population aixoise, c'est une proportion importante d'étrangers qui arrivent au travers de ces entreprises internationales qui s'installent dans la région.
C'est pas énorme, hein, parce que le tissu économique régional n'est pas au niveau entreprises étrangères, n'était pas très très important comparé à des villes comme Paris par exemple, mais on a ça, donc on voit pas mal de gens arriver de plus en plus parce qu'ils sont attirés par le soleil. Le TGV fait aussi également qu'on a de plus en plus de gens qui viennent sur la région s'installer, donc une clientèle qui se développe.
Vous le disiez tout à l'heure, parmi votre clientèle de très nombreux étudiants, quel lien entretenez-vous avec l'université, ou plutôt les universités qui sont présentes à Aix-en-Provence ?
Disons qu'on connaît beaucoup les étudiants. On essaie, nous, notre part, de travailler avec eux en essayant d'être proactifs. On essaie d'aller voir les secrétariats avant la fermeture d'été, de manière à obtenir des plaquettes, des programmes qui doivent être faits à la rentrée. Pour pouvoir, provisionner les livres et que les étudiants, dès que la rentrée, puissent les trouver sur les étagères. Mais j'avoue qu'on a quelques soucis. C'est vrai que cette année a été une année particulière avec les grèves du premier semestre qui nous ont beaucoup embêtés, c'est vrai, qui nous ont fait faire des stocks, on a dû renvoyer des livres qu'on a dû renvoyer, etc., gestion des stocks, donc. Mais disons, on apprécierait d'avoir un peu plus de rapport avec surtout les professeurs, parce qu'il n'y a aucun contact direct. On change des programmes en cours d'année, d'où il faut qu'on soit très réactif, parce que si c'est pour des livres en anglais, on n'a pas trop de soucis, parce qu'on a des fournisseurs qui sont très très rapides. Mais quand justement, c'est une des raisons pour lesquelles il y a peu de libraires dans la région qui veuillent faire des langues comme l'italien, parce que travailler avec l'italien est très très difficile. On a des délais qui sont beaucoup plus longs. Donc on essaie de réagir le plus rapidement possible, mais si on pouvait avoir à l'avance les programmes et être sûr de ce qui allait se faire, on pourrait être encore plus, disons, plus positif et pouvoir avoir les livres en temps et en heure voulu, quoi.
Donc un lien avec l'université, avec le rectorat qui est encore à améliorer selon vous.
Absolument, je dirais que on a pratiquement, c'est nous qui essayons de créer un lien en allant sur place, en faisant un déplacement. Il est très rare de voir des professeurs, sauf quelques-uns que je connais moi-même pour avoir fréquenté l'université il y a très longtemps et qui s'y trouvent encore et qui sont très gentils et qui ont la sympathie de venir nous rendre visite de temps en temps pour nous mettre au courant. Mais sinon, la plupart, on n'a aucun contact. C'est à nous, au travers des étudiants, de faire la part des choses, de savoir ce qui va se passer ou pas. On apprend, c'est du bouche à oreille, disons.
2006, c'était l'année Paul Cézanne par-ci, Paul Cézanne par-là, Paul Cézanne partout. Est-ce que ça n'était pas un peu excessif? Est-ce que du coup, ça n'a pas un peu tendance à masquer d'autres réalités culturelles, locales, derrière cet aspect un peu patrimonial et un peu facile?
Oui, c'est vrai que cette année, Cézanne, c'était Cézanne partout, depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Bon, c'est aussitôt arrêté que c'était venu, disons. Nous, on était bien placés, puisqu'aux premières loges, nous sommes en face, situés en face de la billetterie. Donc, on a vu des queues immenses de personnes, les derniers temps, juste depuis 5 heures du matin, qui étaient là. C'est vrai qu'on a vu défiler beaucoup de gens. C'est vrai que, bon, mois de juin, juillet, c'était assez calme, c'était davantage au mois de août et septembre, comme clientèle. Mais disons que je pense que cette année, on a moins parlé, beaucoup moins parlé du festival de musique par rapport. Tout était axé sur Cézanne, tout était à la mode Cézanne, tout le monde s'y est mis. C'est vrai que c'était au détriment certainement d'autres spectacles de la région.
Est-ce que globalement votre métier est difficile?
C'est un métier très très difficile, il faut toujours être à l'affût de tout ce qui arrive, de ce qui sort, des nouveautés, etc. C'est un métier où maintenant on a beaucoup quand même de concurrence avec des moyens, disons, genre Internet, des gros groupes comme Amazon, des magasins locaux, la Fnac qui doit venir s'implanter à Aix. Bon, qui est relativement une concurrence pour nous, parce que bon, c'est pas trop leur secteur d'activité, la FNAC, mais tout le temps, il faut tout le temps se remettre en question et revoir les choses. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes un petit peu diversifiés, du fait que nous avions une clientèle étrangère, principalement de langue anglaise. Nous avons instauré une petite épicerie de produits anglais. Voilà, que nous offrons également. Donc, pour nous, c'est un petit peu un centre culturel, disons, anglophone. Et les gens apprécient beaucoup.
Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes implanté à Aix-en-Provence depuis de nombreuses années. Vous en avez donc une perception maintenant assez claire de cette ville, de sa population, de ses lecteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Traditionnellement, on taxe Aix-en-Provence d'être une ville un peu branchée, un peu élitiste, un peu bourgeoise, très jeune. Est-ce que ces qualificatifs vous semblent justifiés? Est-ce que vous voudriez en ajouter d'autres? Comment est-ce que vous percevez la ville et ses habitants?
Disons que moi-même, je suis aixoise, j'ai fait mes études à Aix et j'ai vécu quand même 25 ans hors de France et j'y suis revenue en 98. Je dois dire que je n'ai plus du tout retrouvé l'ambiance étudiante qu'il y avait avant de mon temps, disons. Beaucoup de choses ont changé, c'est pas uniquement, je pense, bon, les gens ont changé, mais c'est aussi c'est des problèmes économiques qui font que aujourd'hui, peut-être, le pouvoir d'achat des étudiants n'est pas aussi important que ce qu'il était avant. On les voyait en début de. D'abord, il n'y avait pas de semestrialisation. Ils arrivaient en septembre-octobre, ils achetaient une grosse pile de livres pour tout le. Maintenant, on les voit arriver, acheter le livre à la dernière minute, si ce n'est pas le photocopier, c'est le prêter ou l'emprunter. Ça a beaucoup, beaucoup évolué. Nous, d'ailleurs, par principe, maintenant, on a pris. pris la politique de ne pas faire le beau livre, parce que surtout en anglais, il n'y a pas suffisamment de clientèle qui achète ce type de livre dans la région. Ils ne vont pas acheter, parce que bon, les livres quand ils sortent sont en ce qu'on appelle un hardback, et ils ne vont pas acheter un polar en hardback à 20 ou 25 euros, alors que 5-6 mois plus tard, ils vont pas le trouver en poche. Donc on a pris parti, nous, d'éviter ces beaux livres, de faire ce... Donc on se situe dans un milieu de gamme, disons, pour essayer de satisfaire la clientèle.
Est-ce que vous seriez tenté, à terme, de quitter Aix-en-Provence, justement, et peut-être d'aller vers une ville un peu plus grande, dans laquelle vous auriez un peu plus d'espoir de trouver une clientèle plus étoffée? Je pense bien entendu à Marseille, mais pas forcément uniquement à Marseille.
Marseille, est justement, je pense que c'est une ville qui est très très difficile. Beaucoup de confrères s'y sont essayés et malheureusement ont dû fermer boutique au bout de quelques années parce que c'est une ville très très dure. Marseille, c'est pas vraiment une clientèle au niveau anglais. Peut-être qu'il y a d'autres langues, ce qui serait même à développer, ne serait-ce que les langues africaine, asiatique ou arabe, mais disons que l'anglais, les gens ont eu quelques soucis, disons. Puis moi, bon, maintenant, vu mon âge, entreprendre quelque chose dans une plus grande ville, je suis plus près de la retraite, disons, que ce type de choses. Et puis bon, je suppose que d'autres n'ont pas attendu, qui s'y trouvent déjà. Dans les grandes villes, ne serait-ce que Paris ou Lyon ou autre, il y a déjà suffisamment de libraires, je pense.
L'an prochain, 2007, est une année de grandes échéances, d'échéances politiques notamment. Est-ce que vous pensez qu'à Aix-en-Provence, les choses sont susceptibles de changer?
Je ne pense pas. Il faudrait, je pense, attendre peut-être les élections municipales qui risquent de changer quelque chose. Mais là, pour le moment, c'est le grand flou artistique. On n'a pas du tout de précision. Qui seront les candidats? Comment ça va se passer et autres? Oui.
Est-ce que vous avez, vous, des attentes particulières en tant que commerçante, en tant que libraire à cet égard?
Nous avons, en tant que commerçante, nous avons créé justement, parce que bon, du fait de notre situation, on est dans un quartier qui n'est pas très commerçant, disons, c'est pas le quartier commerçant de référence à Aix. Nous sommes ce quartier Mazarin, qui est un des plus anciens quartiers, qui est magnifique d'ailleurs. Et pour justement essayer de contrecarrer la chose et de nous faire connaître, nous avons créé une association de commerçants du quartier et on a publié une petite brochure justement pour essayer de faire venir les gens de ce côté-là, mais de l'acquis, quoi. Il faut continuer à travailler là-dessus.
Eh bien, bon courage pour la suite des événements. Merci Martine.
Merci beaucoup.
Merci à Gilles Eboli de la Cité du Livre, à Jean Arbeil des éditions Edisud, ainsi qu'à Martine Graillon de la librairie Paradoxe pour leur participation à cette émission, ce petit tour d'Aix-en-Provence à propos du livre, de l'édition et de la lecture. Prochain rendez-vous dans cette thématique La Grenouille cherche Aix, c'est demain, 6 novembre, toujours à 18h, une émission proposée par Marc Voiry qui va cette fois-ci s'intéresser aux arts plastiques.